Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il y a très peu de choses à dire après une telle vidéo, très peu de choses à commenter. Et par cette vidéo et par tant d'autres témoignages, nous savons depuis longtemps que les chrétiens persécutés passent par des tempêtes que nous ne pouvons même pas imaginer. Et une de leurs réalités est cette pression qu'ils peuvent avoir au quotidien, afin qu'ils renoncent à leur foi. Pression que, sans doute, nous ne connaissons pas ici, en France. Pression qui vient des autorités, là-bas, de la police, des collègues, de la famille, des voisins. Pression qui sont parfois violentes, comme on l'a vu. Et d'ailleurs, Portes Ouvertes distingue deux catégories de persécution. D'un côté, l'oppression violente, qu'ils ont intitulée « persécution marteau », assassinat, kidnapping, mariage forcé, destruction de biens. Et puis de l'autre côté, la pression par discrimination, la persécution étau, l'oppression, le rejet, le déni de droit, l'exclusion, le procès injuste. Mais voici quelques exemples encourageants de l'Église persécutée. Le premier exemple, le pays de l'Iran, qui est une république islamique, qui occupe la 8e place dans l'index mondial de persécution des chrétiens 2021. Là-bas, les chrétiens sont persécutés par le gouvernement, qui les considère comme des agents de l'Occident. Et ce sont les chrétiens d'arrière-plan musulmans qui sont le plus persécutés. Alors, ils se réunissent en secret. Et s'ils sont découverts, bien sûr, ils sont arrêtés et emprisonnés. Et pourtant, l'Église iranienne est en ce moment celle qui grandit le plus dans le monde. 800 000 chrétiens. Nous assistons dans ce pays à un exode massif de l'islam vers le christianisme. Et un des responsables iraniens confirme en disant « Et si je vous disais que les mosquées sont vides ?» C'est exactement ce qui se passe en Iran. Deuxième exemple, encourageant aussi, l'exemple de l'Inde, qui a été documenté notamment dans la vidéo. En Inde, les chrétiens sont victimes du nationalisme religieux, exercé par le parti hindou radical qui est au pouvoir. Les chrétiens sont agressés, exclus, injustement accusés de convertir de force les hindous, et parfois assassinés. Et pourtant, là aussi, l'Église grandit. Malgré les menaces, le nombre de chrétiens ne cesse d'augmenter, passant de 58 à 66 millions en quelques années seulement. 66 millions, c'est presque toute la France. Et un expert qui connaît bien le terrain déclare « À première vue, il semble que les extrémistes hindous sont en train de gagner. Mais nous devons regarder plus loin. Et pas seulement en surface. » Je vois l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et qui viennent à la foi. Et puis un troisième exemple, tout aussi encourageant, au Bangladesh, pays musulman, la persécution touche les enfants qui sont discriminés à l'école par leurs camarades de classe, mais aussi par les enseignants. Et sans oublier des groupes radicaux qui enlèvent des chrétiens pour dissuader, par la terreur, toute volonté de suivre Jésus. Je vous laisse imaginer s'il y avait de tels enlèvements en France. Mais des personnes se tournent quand même vers le Seigneur dans ce pays. Et l'Église grandit progressivement. 900 000 chrétiens. Ces nouveaux convertis ressentent le besoin et la passion de partager à leur tour la bonne nouvelle du salut. Et même des persécuteurs finissent par suivre Jésus. Un des contacts de Portes Ouvertes, qui est sur place, dit « Ces personnes, en désignant les chrétiens, ces personnes sont inarrêtables pour le royaume de Dieu. » Vous voyez, quand nous parlons de l'Église persécutée, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. Le royaume de Dieu avance. Il avance avec souffrance, mais il avance. Et le texte que Portes Ouvertes a choisi pour ce dimanche de l'Église persécutée se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. Et nous allons lire ensemble ce texte dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Prions ensemble. Notre Père, nous te demandons de nous éclairer par rapport à ta parole, par rapport à ce que tu as inspiré à l'apôtre Paul. Permets-nous, Seigneur, d'en comprendre le sens et de pouvoir l'appliquer dans notre vie. Toi qui nous appelles aussi à porter ce trésor. Merci, Seigneur, encore pour ce moment où nous pouvons nous mettre spécialement à ton écoute. Et nous savons que dans ce moment précis, tu nous parles. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Dès le début de sa lettre, Paul parle des souffrances qu'il connaît en tant que chrétien et en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Il dit notamment, « Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Et si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. » Paul écrit cette lettre notamment pour encourager les chrétiens qui éventuellement souffriraient comme l'apôtre Paul. Le ministère de Paul est loin d'être facile et certains enseignants influents dans l'église de Corinthe se permettaient de critiquer, de remettre en question son ministère. Paul se défend dans cette lettre. Paul se défend et notamment dans ce chapitre 4. Alors nous avons lu l'ensemble de ce chapitre, mais c'est le début vraiment du verset 8 qui nous intéresse, qui va nous servir de verset clé. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasé. Comment cela est-il possible? Comment Paul peut-il écrire cela alors qu'il a vécu des souffrances similaires à ce que nous avons vu dans la vidéo? Comment peut-il dire cela? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et tout d'abord, de nous poser cette question, pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts, d'après ce verset? Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Avant de répondre à cette question, précisons que dans le texte, le pronom « nous » que Paul emploie est un « nous » apostolique. Paul parle de lui, parle également de ceux que Christ a appelés apôtres et qui souffrent pour la cause de l'Évangile. Lorsque Paul écrit « nous », il parle de lui. Mais bien entendu, puisque ce qu'il vit peut être l'expérience de tout croyant, il en parle aussi dans le but d'encourager les chrétiens. Alors pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Eh bien d'abord, parce que nous portons un trésor. Paul considérait que l'évangile de la gloire de Christ est un trésor. Un trésor bien plus important que tout ce qu'il avait connu auparavant. Et d'ailleurs, il écrit dans une autre lettre aux chrétiens de Philippe, « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. » Philippiens 3, verset 8. Connaître Jésus est le plus beau des trésors. Est-ce que nous pouvons dire cela à titre personnel? Connaître Jésus est le plus beau de mes trésors. Et pourtant, au lieu d'attirer les regards ou même la curiosité, ce que ferait ordinairement un trésor, eh bien ce trésor-là dont parle l'apôtre Paul, ce trésor-là n'attire pas toujours les foules. Pourtant, c'est un trésor, mais qui n'attire pas forcément les foules. Et nous constatons même l'inverse. Dans certains pays, ce trésor attire la haine. C'est ce que nous avons vu dans l'histoire de Kirti. Et même ici en France, l'évangile dérange. Il dérange les incrédules. Et par-dessus tout, ici ou partout dans le monde, par-dessus tout, il dérange le diable. Le diable qui déteste ce trésor, car il sait combien ce trésor est précieux pour nous ouvrir les yeux. Il fait et fera tout pour empêcher les hommes et les femmes de découvrir ou de garder ce trésor. Et dans ce combat spirituel, dans cette lutte, nous savons que cette lutte prendra fin un jour au retour de Jésus. Et au verset 4 de notre texte, Paul parle de cette réalité spirituelle. Il dit que le Dieu de ce monde, en désignant Satan, le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Le Dieu de ce monde présent, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas voir briller ce trésor. Un trésor, ça brille, ça se voit. Et le diable se sert de l'incrédulité de l'homme pour lui fermer la porte de la connaissance. Alors, en sachant cela, que devons-nous faire? Eh bien, au verset 13 de notre passage, Paul écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Il fait une citation du psaume 116. Dans ce psaume, le psalmiste évoque le secours de Dieu au milieu de ses détresses. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » La foi conduit à témoigner, conduit au témoignage. Nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Sinon, nous n'avons pas de raison de parler. Et parfois, nous avons peur de parler. Parfois, nous sommes tentés de cacher ce trésor qu'est l'Évangile. Mais Jésus nous a donné la mission de faire briller la lumière de l'Évangile devant les hommes. Écoutons encore ce que Jésus nous dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde. Et il le dit à ceux qui les écoutent, à ceux qui l'écoutent, aux disciples. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts ? Eh bien, également parce que nous sommes fragiles. Voilà pourquoi nous ressentons cette pression, ces épreuves. L'apôtre Paul écrit au verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce trésor de l'évangile de Christ, nous le portons dans des vases de terre. » Voilà un contraste intéressant. D'un côté, un trésor qui est tellement précieux, mais qui se trouve dans un vase de terre tellement modeste. Et dans la Bible, il n'est pas rare que les êtres humains soient comparés à des vases et Dieu à un potier. Et l'image du vase de terre nous rappelle la fragilité de l'être humain. Nous sommes des vases de terre, tellement fragiles. Le messager en soi n'est pas ce qui compte le plus, mais il est porteur d'un message de grande valeur. Et notez que Dieu n'a pas choisi des anges qui auraient sans doute été de meilleurs messagers, plus puissants et plus aptes que nous. Dieu n'a pas choisi des anges pour cela. Non, dans sa sagesse infinie, Dieu prend des hommes et des femmes, comme vous et moi, qui peuvent rendre témoignage de la grâce de Dieu dans leur vie. Donc Dieu n'a pas désigné des anges pour cela, mais nous, les êtres humains. Et si nous écoutons le témoignage de cet homme, Madira Kotiredi, eh bien il était gravement malade et condamné à mourir, quand Dieu l'a miraculeusement guéri et lui a annoncé qu'il allait lui confier une mission. Il savait à peine lire et n'avait jamais étudié la théologie. Mais un jour, un pasteur est arrivé avec une bicyclette aménagée avec des haut-parleurs et une Bible audio amplifiée qu'il a remise à cet homme, Kotiredi. Il est alors devenu l'évangéliste à bicyclette. Il allumait sa Bible amplifiée, il diffusait un chant, puis un verset biblique, et il circulait dans les villages en annonçant l'évangile. Il a fait cela pendant 7 ans, jusqu'au jour où on l'a arrêté, en lui disant qu'il ne devait plus revenir. Et une nuit, alors qu'il dormait, quelqu'un est venu avec une hache pour le tuer. Il a reçu plusieurs coups de hache et s'est retrouvé à l'hôpital, presque mort. Et le lendemain, un des partenaires de Portes Ouvertes est allé lui rendre visite. Il a demandé à son épouse, à l'épouse de Kotiredi, « Est-ce que tu as peur de perdre ton mari ?» Et elle qui répond, « Pour moi, il devrait être mort depuis 7 ans déjà. Celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. » Et aujourd'hui, Kotiredi a repris ses tournées à vélo avec encore plus d'énergie. Et Kotiredi est un de ces vases de terre fragiles, comme l'était l'apôtre Paul, sans valeur aux yeux du monde, mais tellement précieux pour Dieu. Et quand on voyait Paul, il paraissait sans doute misérable, méprisable, faible aux yeux de certains. Eh bien, de telle sorte que l'attention n'était pas focalisée sur lui, mais focalisée sur le trésor qu'il contenait, Christ. Et si le vase, si on peut un peu prolonger cette image du vase, si le vase avait eu la moindre valeur, eh bien la lumière aurait été atténuée. Mais c'est parce que le vase est brisé, pressé, fissuré, c'est alors que la lumière brille. C'est alors qu'on voit cette lumière, la lumière de l'Évangile. Et parfois, nous pouvons aussi penser que nous n'avons aucune valeur aux yeux de nos voisins, de notre famille, de nos collègues, de ceux que nous côtoyons. et qui ne considèrent pas notre foi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment. Mais Dieu nous a choisis pour répandre sa lumière, pour le faire connaître. Dieu nous a choisis. Nous, des vases de terre. Dieu nous fait porter volontairement ce trésor glorieux qu'est l'évangile de Christ à nous qui sommes si fragiles. Et de cette manière-là, puisque nous sommes si fragiles, la puissance est attribuée à Dieu et non pas à nous. La puissance que produit l'évangile est celle de Dieu et non la nôtre. Puissance qui se manifeste quand, par ce message, par le message de la bonne nouvelle, des hommes et des femmes changent de vie pour suivre Christ. Quelle puissance dans ce message! Mais c'est un message qui vient de Dieu. Plus la faiblesse du témoin est manifeste, et plus la puissance de Dieu est éclatante. Pressé de toutes parts, oui, mais non écrasé. Alors pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? C'est la deuxième partie de notre questionnement. Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? Eh bien, d'abord parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Paul, en tant que serviteur de Christ, a connu des épreuves, des persécutions. Il s'est senti abattu par moments. Et pourtant, il n'a jamais définitivement sombré dans le désespoir. D'ailleurs, il a fait l'expérience du secours de Dieu, comme il en témoigne au début de sa lettre. Si nous lisons cet extrait dans le premier chapitre de sa lettre, il raconte ceci. « En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. » Et puis au verset 8 et 9 de notre texte, nous avons toute une série d'antithèses. D'un côté, de véritables souffrances que Paul endure dans son corps, pressé de toutes parts, inquiet, persécuté, abattu. Et puis de l'autre côté, le secours de Dieu qui lui permet de supporter tout cela, de tenir bon. Malgré tout cela, non écrasé, non désespéré, non abandonné, non anéanti. Nous aussi, nous pouvons être pressés de toutes parts en tant que chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu autour de nous. Nous pouvons connaître, ou nous avons déjà connu, le rejet, les moqueries, voire les insultes. Mais ces souffrances, mes amis, ne nous conduisent pas au désespoir, quelle que soit leur intensité. Ces souffrances ne nous conduisent pas au désespoir, quelle que soit leur intensité. Il est vrai que les épreuves sont parfois très dures, comme dans l'histoire de Kirti qui a perdu son mari, comme dans l'histoire de Coty Reddy qui a été violemment battu. Et tous deux ont failli mourir. Et ils risquent encore leur vie jusqu'à aujourd'hui. Et de même, lorsqu'on pense à l'apôtre Paul, eh bien, il a fait cette même expérience de côtoyer la mort au quotidien. Et c'est pour cela que, notamment au verset 11, il écrit ceci. « En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. » Paul imite l'exemple de Jésus. Jésus, notre Seigneur, qui a suivi ce chemin de souffrance jusqu'à la mort. Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance, condamné et mis à mort alors qu'il disait la vérité. Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés, pour nous sauver, de la condamnation que nous méritions. Mais cela ne nous épargne pas les persécutions. Christ est notre modèle en tout, y compris dans nos souffrances. Il est le modèle en tout, y compris dans nos souffrances, dans nos persécutions. Et pour revenir au cas de l'Iran, les autorités religieuses ont tout fait pour détruire la foi chrétienne. Mais le résultat, c'est que ces pressions ont servi au contraire à consolider et à purifier l'Église. Un dirigeant d'Église iranien dit « Ce que la persécution a fait, c'est détruire l'Église qui n'était pas composée de disciples. » Autrement dit, la persécution a fait un tri entre les disciples prêts à mourir pour le Seigneur et les convertis de surface qui renoncent face à l'épreuve. La persécution a fait un tri dans l'Église. Et puisqu'ils sont surveillés, eh bien les chrétiens vivent leur foi dans la clandestinité. Ils trouvent des parades pour que l'Église continue de grandir. Et leur objectif, dans leur contexte, n'est pas d'implanter des églises, mais de faire des disciples. Et si nous pensons au témoignage de ce couple, Ava et Marduk, ce sont des noms d'emprunt, ce sont des chrétiens iraniens, fervents. Malgré tout, bien sûr, dans ce contexte-là, ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi, notamment suite à l'emprisonnement de Marduk. Ils ont tout perdu, leur maison, leurs biens, leurs revenus, sans compter qu'ils sont constamment sous surveillance. Mais malgré cette persécution, ils ont grandi dans la foi. Et Ava, la femme, raconte « Quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intimes et très fortes avec Dieu, et j'en ai retenu de nombreuses leçons. J'ai appris que Dieu était là avec moi dans le feu. » Et Ava réalise qu'elle avait lu et relu la Bible, qu'elle avait même enseigné aux autres, mais que sa connaissance était en grande partie théorique. Et c'est grâce à la persécution qu'ils ont subie qu'elle connaît la réalité de Dieu et de ses promesses. Et elle dit ceci, « Je sais que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous arracher à lui. » Et depuis l'arrestation de son mari, eh bien Ava est devenue comme une enfant, sans défense, mais totalement dépendante de la puissance de l'amour de Dieu. Elle apprend de plus en plus à lui faire confiance et à lui obéir. Et elle dit encore, « Je peux dire que je suis plus prête et disposée à faire la volonté de Dieu. » Nous voyons bien que la persécution n'écrase pas nos frères et sœurs en Christ. Bien au contraire, ils tiennent bon grâce à Dieu. Et il en est de même pour nous ici, lorsque nous souffrons à cause de notre foi. Dieu est là aussi. Et nous tiendrons grâce à lui. Et puis, toujours à cette question, pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? Eh bien, parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. Comme vous le savez, l'espérance est notre thème de l'année. Et nous y revenons constamment parce que les auteurs bibliques en parlent. Et Paul peut dire qu'il n'est pas écrasé, qu'il n'est pas anéanti, parce qu'il a cette espérance. Verset 14, « Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. » Paul a cette espérance de la résurrection. Et c'est une espérance qui est partagée par tous les croyants. Et la fin du chapitre 4 a aussi pour horizon la gloire à venir, lorsque nous voyons le verset 17. « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Il y a le déjà. Nous avons déjà cette espérance. Nous avons déjà cette promesse de Dieu que tous ceux qui sont unis à Christ, que tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus, connaîtront la gloire. Nous avons déjà cette espérance. Christ nous l'a garantie par sa mort et par sa résurrection. Et en même temps, il y a le pas encore. Parce que nous n'y sommes pas encore. Et c'est pourquoi nos souffrances et nos épreuves sont bien réelles. Nous ne sommes pas encore dans cette gloire à venir. Et pourtant, malgré leur intensité, nos épreuves sont estimées légères. Nos épreuves sont estimées légères et momentanées au regard de la gloire éternelle. Que ce soit nos difficultés liées à notre condition humaine, nos problèmes personnels, les épreuves par lesquelles nous passons, que ce soit les difficultés liées à la persécution, nous savons que toutes ces souffrances, dans la perspective de l'éternité, sont temporaires, ne durent qu'un moment. Seule la foi qui nous est donnée par Dieu nous permet d'être convaincus de ces choses invisibles dont parle l'apôtre Paul. Seule la foi nous fait apprécier ce qui est éternel. Et au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, il y a une réalité à venir. Il y a une réalité glorieuse avec un Seigneur de gloire qui revient bientôt. Et c'est pourquoi, même pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Christ revient bientôt. Nous avons cette espérance. Alors nous ne perdons pas courage. C'est ce que Paul écrit à deux reprises dans ce chapitre. Nous ne perdons pas courage. Et comme Paul, notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. C'est le trésor que nous portons dans nos vies bien fragiles. Les épreuves peuvent réussir à fissurer le vase que nous sommes. Et c'est justement au travers de ces fissures que la lumière de la gloire de Christ pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. Dans nos faiblesses, c'est la puissance de Dieu qui agit. Nous avons besoin de retenir cela. Nous ne sommes pas tout-puissants, mais Dieu l'est. Dans nos faiblesses, c'est la puissance de Dieu qui agit pour toucher les cœurs. Nous sommes parfois accablés, mais le Seigneur nous encourage par les mots de Paul à fixer nos regards sur ce que Dieu a en réserve pour nous, notre résurrection et la gloire à venir. Nous devons garder cela toujours sous nos yeux. Parce que c'est ce qui est devant nous. Nous allons dans cette direction-là, quoi qu'il arrive. Et au responsable d'Éphèse, eh bien Paul déclare, nous retrouvons ça dans Actes 20, voici ce qu'il dit, « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Vous remarquez bien, je ne considère pas ma vie comme précieuse, parce que la seule chose précieuse, c'est ce trésor que nous portons. L'exemple de Paul, qui était un imitateur de Christ, l'exemple de nos frères et sœurs persécutés, et bien sûr, l'exemple de Christ lui-même, nous conduisent à une seule question. Sommes-nous prêts à consacrer notre vie fragile, quel que soit le prix, pour partager le trésor de l'Évangile à nos contemporains? Sommes-nous prêts à utiliser notre vie fragile, quel que soit le prix, pour partager le trésor de l'Évangile à nos contemporains? Et quand je dis « sommes-nous », je parle de l'Église, dans son ensemble. Ce n'est pas juste un choix personnel. C'est un choix à prendre en Église. Sommes-nous prêts à consacrer notre vie fragile, à payer le prix pour partager le trésor de l'Évangile à nos contemporains? Je vous invite à prendre un temps pour répondre particulièrement à la parole de Dieu et à cette dernière question. pressé de toutes parts, mais non écrasé. C'est vrai, Seigneur. C'est une affirmation que tu as laissée dans ta parole. C'est ce qu'a expérimenté l'apôtre Paul, ainsi que d'autres apôtres. C'est ce qu'a expérimenté aussi bon nombre de nos frères et sœurs persécutés. Et nous avons cette conviction que si, du jour au lendemain, nous devions aussi vivre des persécutions fortes, nous pourrions dire la même chose. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Parce que notre regard ne porte pas sur le monde présent. Nous ne restons pas focalisés sur ce que nous vivons. Mais nous restons focalisés sur toi. Toi qui es notre espérance. Toi qui nous as donné cette espérance de la gloire à venir. Parce que Christ a tout accompli pour cela. Pour que ton peuple, racheté, puisse régner avec toi. Et cette réalité, nous savons, est une réalité à venir, et c'est ce qui nous donne du courage dans le présent. C'est ce qui nous permet de tenir bon, de ne pas nous sentir écrasés, de pouvoir supporter toutes les épreuves, toutes les souffrances. Parce que ces souffrances-là sont temporaires, mais ta gloire est éternelle. Et nous voulons te remercier encore de fortifier nos cœurs. Et nous te demandons, Seigneur, tout le courage qui nous est nécessaire pour porter ce trésor qu'est l'Évangile. Et pour le porter là où tu nous envoies, là où tu nous as placés. Pour que nos contemporains, puisqu'il s'agit de notre génération, pour que nos contemporains puissent aussi avoir accès au trésor de l'Évangile de la gloire de Christ. Et c'est tellement précieux comme trésor. Et dans ta sagesse infinie, tu l'as placé dans des vases que nous sommes, des vases tellement fragiles. Mais pour que la puissance puisse être attribuée à toi seul et non pas à nous. Nous te louons pour cela. Nous te bénissons de ce que dans ta grâce tu nous utilises, qu'avec ton esprit tu nous envoies et que nous savons que nous faisons tout cela au nom de Christ. Amen.